Merci. Merci à Jean-Marc, à vous tous pour votre invitation. On est très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous dans la présence de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous transmettre les salutations de l'Église, parce qu'après, c'est des choses qu'on oublie de faire si on ne le dit pas dès le départ. Et l'Assemblée de Quimper, qui est une jeune assemblée qui aura 5 ans cette année, et une assemblée comme partout où l'Église se rassemble, qui aime louer le Seigneur et que nous aimons aussi servir. Nous aimons servir le Seigneur et servir l'Église. Avant d'en arriver là, il y a plusieurs années de cela déjà, je repensais au début des années, enfin à la fin des années 90, donc du siècle passé. J'étais encore animateur à l'opérette dans le Nord Finistère. Et je me rappelle qu'il y a 3 jeunes filles, je crois qu'il y avait Émilie, Aurélie et Laetitia, qui passaient par là. Et puis c'était bizarre parce qu'elles ne venaient pas de nos assemblées. Vous savez, elles n'étaient pas assemblées de Dieu. Puis on nous a dit, ouais, elles sont chrétiennes, mais elles viennent de Kevin. Alors Kevin, moi je ne savais pas, comme les gens ne savaient pas où était l'opérette d'ailleurs, mais moi je savais. Et puis donc on a appris à connaître, puis elles étaient normales, comme nous, à peu près pareil. Après j'ai rencontré le papa, il est où le papa? Il est retourné s'asseoir, juste ici, en face de moi. Et ça a été un peu la première fois pour moi où non pas j'ai compris qu'il y avait d'autres, ou su qu'il y avait d'autres assemblées, mais où j'ai compris que d'autres assemblées professaient le même nom de Jésus, de la même manière aimaient Jésus. Et ça a été le premier pas vers une ouverture pour nous qui sommes d'une famille d'assemblées qui est assez répandue, donc qui pourrait s'autosuffire, mais qui ne peut pas s'autosuffire. Ça a été la première étape. Et puis le Seigneur a continué de former mon cœur jusqu'à l'âge de 28 ans où il s'est dit, bon, t'es pas prêt, mais je te donne quand même quelque chose de précieux, Gaël. Et lui savait combien Gaël était une belle âme, une belle personne, et puis il a essayé de me préparer sûrement pour que je sois prêt. Ça a mis 28 ans et certainement il a dû se dire, c'est pas encore bon, mais on va y aller quand même. Puis on s'est mariés en 2009 et on a commencé à travailler, à servir Dieu ensemble, puis à se connaître. Et je découvre ce que Dieu a mis de précieux en elle et ce qu'il fait de précieux avec nous chaque jour. Et vraiment, je veux bénir Dieu parce qu'il nous connaît très bien. Il pourrait nous laisser dans là où on est, dans ce qu'on fait, et puis on tournerait en rond, mais il nous donne de bonnes choses, de belles personnes pour qu'on puisse avancer. J'ai entendu aussi Jean-Marc parler de 120 personnes. Il faudra un peu élargir la salle. Mais est-ce que vous voudriez qu'il y ait 120 personnes dans ce lieu? Vous êtes consciente que Dieu peut le faire? Parce qu'il y a des phases dans l'Église, je ne connais pas du tout l'Église, mais des fois on entend dans les Églises, « Seigneur, on ne te prie pas pour le nombre, on te prie pour la qualité. Bah, » c'est bien aussi, mais le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Seulement, ça a un prix, et je crois que ce prix, il nous coûte beaucoup, parce que souvent, on cherche à faire de l'Église une Église qui nous convient. Or, Dieu veut que l'Église soit une Église qui convienne à ceux qui vont entrer. Donc, quand on a trouvé une église où on est bien à l'aise, il faut se dire, attention, si je suis à l'aise, peut-être que d'autres qui viendront ne seront pas à l'aise. On n'est pas là pour nous, on est là pour les autres. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais j'essaie de m'en rappeler régulièrement. Parce que quand je me sens bien à l'aise, je me dis, peut-être que c'est trop pour nous, trop pour moi, et pas assez pour ceux du dehors qui doivent rencontrer Jésus. Bien, je vous invite à partager quelques pensées autour du psaume 13, verset 5, en tout cas pour commencer. Psaume 13, verset 15, quelques mots de ce verset du livre des psaumes, de ce psaume 13. En pleine nuit cette semaine, j'ai été réveillé avec ce verset-là, juste cette partie de verset, « J'ai confiance en ta bonté ». C'est un verset très simple, très court, « J'ai confiance en ta bonté », mais quand j'ai réalisé ce qu'il y avait derrière, je me suis dit, « Mais est-ce que nous avons confiance dans la bonté du Seigneur ?» Alors oui, on sait qu'il est bon, c'est pas ça dont je parle. Je ne demande pas si on connaît nos classiques, si on connaît nos versets, notre théologie, ou je ne sais. Mais je me suis demandé, est-ce que nous, chrétiens, avons conscience de la bonté, les confiances en la bonté de Dieu? On a peut-être tendance à se rappeler plutôt des jugements de Dieu. Peut-être qu'on a plutôt une tendance naturelle, même si on lutte contre ça, à avoir des craintes vis-à-vis de Dieu, parce qu'il est celui quand même qui est saint, qui est grand, qui est parfait. Puis nous, même si on est sauvé par grâce, amen, gloire à Dieu, on le sait, on a quand même cette tendance peut-être à se dire, oui, je ne suis pas à la hauteur, et on va le voir ensemble, peut-être que la bonté de Dieu, on a besoin de s'en rappeler et d'avoir davantage confiance dans la bonté de Dieu. Il y a des extrêmes un petit peu, disons, il y a des courants dans nos églises, il y a des courants, je ne développerai pas, mais il y a des courants qui vont du légalisme à l'extrême grâce, si on peut dire comme ça. Donc des gens qui sont très portés, je vais être avec beaucoup de respect, je vais dire vers la crainte de Dieu, le respect de Dieu et dans les œuvres, dans la façon de parler, de s'habiller, de, etc., qui veulent vraiment respecter Dieu qui est saint. Et puis d'un autre côté, je parle vraiment d'un extrême, entre les deux, il y a beaucoup de gens. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent, de toute façon, Dieu est amour, on fait ce qu'on veut, et il nous aime, il nous a pardonné. Et entre les deux, il y a tout le monde. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur, mais déjà, entre les deux, il y a de quoi faire. Certains diront, Dieu est bon, on ira tous au paradis. Alors là, c'est plus chez nous. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, Dieu est saint, il ne tolère aucun péché. Dieu est bon, on ira tous au paradis. Non, mais il le voudrait. Dieu est saint, il ne tolère aucun péché. Oui, mais il pardonne les péchés qu'on a commis. Donc, c'est bien de trouver un équilibre là entre les deux, parce que Dieu est bon, ça ne veut pas dire qu'il est injuste, il est juste. On va lire ensemble un texte qui sera vraiment là le texte de base pour nous, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 11. Vous connaissez, pour ceux qui sont habitués de la parole de Dieu, vous connaissez cette référence. Luc 15, déjà, c'est le bon berger, le berger qui retrouve sa brebis. Et puis là, on va voir le fils. Je garderai les termes qu'on a l'habitude d'utiliser, le fils prodigue, le fils perdu, qui revient à la maison. Jésus dit encore, verset 11, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Voilà une des paraboles vraiment centrales, enfin des plus connues de l'Évangile, de toutes celles que le Seigneur nous a données. Et je pense qu'on a raison de s'y attacher. Il y a beaucoup d'angles d'approche pour cette parabole et je vais pas faire de grandes surprises ce matin, mais quand même, sur la fin peut-être il y aura un petit peu de surprise. Mais avant, je voudrais reprendre le chemin de cette parabole avec vous, la reprendre avec vous rapidement. Je parle de la bonté de Dieu parce que je crois que Dieu est bon. Et ici dans cette parabole, Dieu est représenté quelque part, même si ce n'est qu'une image, est représenté par ce Père. Et je trouve dès le départ que ce Père est bon. Parce que alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, quand son fils vient et lui demande de partager son bien, le Père est en vie, le fils vient et dit, tu sais la part qui doit nous revenir quand tu vas mourir, là, je voudrais que tu la partages maintenant, partage dès à présent ton bien. Donne-moi la part qui me revient. Bien, le Père est bon, il le fait. Ça me fait penser à nous lorsqu'on vient vers le Seigneur et qu'on demande des choses, même qu'on estime nous légitimes. On dit « Seigneur, bénis-moi, tu vois, j'ai besoin de telle porte qui s'ouvre, j'ai besoin de telle chose matérielle, j'ai besoin de telle bénédiction, j'ai besoin de telle guérison, j'ai besoin de ça. » Et le Seigneur est bon, alors il donne. J'ai ce qu'il te faut, je te le donne, je te le mets à disposition. Dieu est bon, dès le départ, Dieu est bon. Et je fais exprès de le dire parce que c'est important dans le cheminement de ce fils-là qui veut vivre sa vie. Ce fils récupère les choses, prend les biens de son père. Il est dit que d'abord, le père partage ses biens, leur donne. Et puis, juste un petit peu après, vous avez lu avec moi, peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, parti. Donc le père savait, enfin Dieu sait, mais je veux dire, dans la parabole, on ne sait pas si le père avait vendu le projet du fils, mais qu'il reste ou qu'il parte, le père a dit, je partage, je vous donne. Donc Dieu nous donne, juste par grâce, juste parce qu'il est bon, il nous donne de bonnes choses. Et le fils, lui, est propriétaire de ce que son père lui a donné. Finalement, il lui a donné en avance, mais il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Et Dieu nous donne des choses, Dieu nous a donné des dons, des talents, Dieu nous a donné la capacité de choisir, de décider pour nos vies, de nous orienter d'une manière ou d'une autre. Il a mis ça entre nos mains. Mais on se rappelle que quand Jésus parle de la parabole des talents, lorsqu'il la partage, il dit que le maître a donné des talents à cinq à l'un, deux à l'autre et un à un autre, à chacun selon sa capacité. Et quelques temps plus tard, quand il est revenu, il a demandé des comptes. Donc il donne, mais un jour il demande des comptes. Jouis de la vie, profite de la vie, mais sache qu'un jour, Dieu te demandera des comptes sur toute la manière dont tu as géré ces choses. C'est à nous pour un temps. Ce fils a ces choses pour lui pour un temps. Maintenant, advienne que pourra, on va voir ce qu'il va faire avec. Il prend tout, il s'en va, il vit sa vie. Certainement qu'il avait envie de vivre certaines choses. Il avait les moyens de le vivre, qu'il les vive. Des gens ont eu des talents musicaux, créatifs, artistiques. Ils les ont utilisés comme ils le voulaient. Certains en ont vraiment profité. Ça leur a fait du bien. Pour d'autres, ça a été une descente aux enfers. Des gens ont été très bons en politique, en géostratégie, en économie, j'en sais rien. Ils se sont positionnés au niveau mondial et ils ont mis leur capacité au service des entreprises ou peut-être des églises, ou j'en sais rien. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. Certains étaient très bons ou sont très bons dans le relationnel avec la famille, les amis, etc. Dieu nous a donné des choses. Certains sont de bons travailleurs, certains sont de bons relationnels, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous a donné ? Lui a reçu de l'argent, il s'est dit « je vais profiter de la vie ». Je vais profiter de la vie, il va profiter de la vie, vous connaissez l'histoire. Un jour, il n'a plus rien. Et alors qu'il n'a plus rien, que tout est dissipé, qu'il n'a plus d'amis, parce que malheureusement, les amis sont souvent, sont parfois, je ne sais pas s'il faut dire souvent, mais attachés à ce que l'on possède. Si vous regardez, hier, je regardais, comment il s'appelle, Martin Fourcade. Je crois qu'il y a le ski en ce moment, et il y avait, je pense, la poursuite hier. Il y avait son frère qui courait. Puis après, je suis allé voir sur Instagram, je suis allé voir le compte de Martin Fourcade. Et puis je vois, je ne sais plus combien, 240 000 le suivent. Mais lui, il a 340 abonnés, enfin abonnements. C'est-à-dire que lui, il s'intéresse à 340, mais il est suivi par 240 000. Et ce n'est pas le plus gros exemple dans ce genre-là. Mais il y a plein de gens qui nous suivent, qui suivent des célébrités, qui, quand tout va bien, quand ils sont célèbres, on les suit. Mais lui a l'air d'être conscient, il a juste choisi quelques amis des vrais, ceux à qui il peut communiquer. Et bien, je crois que c'est aussi là ce que Dieu nous demande, c'est d'être réaliste. Mais parfois, on a des amis qui sont juste là par intérêt. C'est ce qui se passe avec ce jeune homme. Quand il n'a plus rien, il n'a plus non plus d'amis. Et là, il se passe quelque chose. Oui, Dieu est bon. Oui, le père est bon dès le départ. Mais à un moment, alors que ça ne va pas, le fils s'arrête, se pose dans son champ à garder les cochons. Il rentre en lui-même. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se rappelle de la bonté de son père. Pas seulement des richesses. Quand il dit « tous les serviteurs ont à manger », etc., ce n'est pas les richesses qu'il met en avant, c'est le fait que le Père est bon, le père est sage dans sa gestion des choses, le Père est généreux, et là où habite son Père, tout le monde a ce dont il a besoin. Et loin du Père, il n'y a plus ce dont il a besoin, ce dont lui, ce jeune homme, a besoin. Donc il prend conscience de cela, le Père est bon, et là où il est, il y a de bonnes choses, mais il prend conscience d'autre chose. Non, on n'ira pas tous au paradis. Enfin, nous, j'espère, mais je veux dire, le monde, tout le monde n'ira pas au paradis. Parce que oui, Dieu est bon, c'est évident. Mais le fils, en même temps qu'il se rappelle que Dieu, enfin que le Père est bon et qu'il y a beaucoup de bonnes choses là à la maison, en même temps, quelle est sa démarche ? Il dit, je vais demander pardon. C'est étonnant. Quelque part, s'il sait que son Père est bon, pourquoi demander pardon ? Puis, de toute façon, il est bon, il va l'accueillir, tout va bien aller. Mais on lit bien le texte, il rentre en lui-même, et là, il se dit, bon, combien d'ouvriers ont à manger ? Moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il rentre en lui-même, et ça m'a conduit vers une parole que Saül dit un jour à David. Saül, le roi, qui sait que David va régner à sa place, et qui sait que David est un homme selon, et l'homme selon le cœur de Dieu. Saül, qui lui a été rejeté en tant que roi, va dire un moment à David, dans 1 Samuel 24, verset 17, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. » Et je crois que le fils prodigue, il a conscience de cette parole, et on devrait nous rappeler de cela. Quand on s'approche de Dieu, oui, il est bon. Mais à un moment, peut-être qu'on a raison de se dire, Seigneur, tu es plus juste que moi. Parce que même quand moi, je t'ai fait du mal, toi, tu m'as fait du bien. Même quand moi, je suis tombé, toi, tu étais prêt, tu es prêt à me relever. Tu es plus juste que moi, mais ce n'est pas une justice d'homme. Parce que, ou en tout cas, ce n'est pas une justice injuste, si on peut dire, parce que cette justice, elle a un prix. Il a fallu que quelqu'un paye pour qu'il puisse faire toutes ces choses. Mais tu es plus juste que moi parce que quand j'étais en mauvaise posture, tu as toujours été présent. Ta bonté, ce n'est pas juste un cœur grand, ouvert. C'est tout un ensemble de choses mises en œuvre pour que je ne sois pas perdu. Tu es plus juste que moi car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Je pense qu'en même temps qu'on réalise que Dieu est bon, on ne peut pas ignorer que Dieu est juste. D'ailleurs, quand Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit était répandu sur l'Église, sur les premiers disciples, il a prêché cette première prédication, là, et à la fin de cette prédication, qui dit l'essentiel, mais qui ne caresse pas les gens dans le sens du poil, hein, qui dit « Vous l'avez crucifié, ta, 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 ta. » À la fin de la prédication, roulement de tambour, qu'est-ce que vont dire les gens ? Des gens prennent la parole, et puis, voyant les disciples, là, dont ils s'étaient moqués pour certains, vont dire « Mais homme, frère, que ferons-nous ?» Et Pierre dit, repentez-vous. Il ne dit pas, Dieu est bon, il suffit de dire qu'il est amour et tout va aller bien. Il dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé. Parce que Dieu, après, a prévu de répandre son esprit sur vous parce qu'il est bon. Il va vous donner encore parce qu'il est bon. Il vous accueillera parce qu'il est bon, mais repentez-vous. Et le Fils fait la même démarche. Il sait que Dieu est bon. Les Israélites savent que Dieu est bon. Ils répètent des dizaines de fois, car sa miséricorde durera toujours. Dans l'un de leurs psaumes. Car sa miséricorde durera toujours. Ils savent qu'il est miséricordieux. Mais à un moment, Pierre dit, ce n'est pas une question de miséricorde. Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas une question de savoir si Dieu est bon. Il est bon. Mais c'est une question de se repentir et de revenir vers lui. Et le Fils prend conscience qu'il doit revenir vers le Père. Alors il fait cette démarche-là de revenir vers le Père qui est bon, parce qu'il a conscience et confiance en sa bonté. Mais il choisit de ne pas occulter le fait qu'il est juste et qu'il n'a pas... il a failli à son Père et à la justice du Père. Donc il vient et il veut demander pardon. Alors, oui, il regrette, mais il va demander pardon. Il y a vraiment une différence. Je vais même dire, peut-être ça peut en choquer quelques-uns, mais il y a une différence entre se repentir et demander pardon. Judas, lorsqu'il a livré Jésus, il a profondément regretté. Il s'est repenti de ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a ramené les pièces aux religieux, et puis il a demandé la libération de Jésus, ce qui n'a pas été possible. Alors il a laissé les pièces, pris de remords, et qu'est-ce qu'il est allé faire ? Il est allé se pendre, se jeter sur un pieu. Il allait se tuer, se suicider, tellement il regrettait ce qu'il avait fait. Il n'a pas demandé pardon à Dieu, enfin en tout cas on n'en a pas de traces, mais je pense que s'il l'avait fait, on en aurait eu quelques traces dans la parole de Dieu. Et je suis sûr que des gens regrettant profondément ce qu'ils ont commis dans le passé, des gens qui ont bâclé leur vie, des gens qui ont détruit la vie des autres, comme je voyais le reportage, aux informations, cet homme-là, cet entraîneur de gym aux États-Unis, qui a abusé de jeunes filles pendant des années, il n'en menait pas large. Je veux dire, on voit bien qu'il y avait un gros problème intérieur, un gros fardeau. Mais des gens ayant vécu ou fait vivre certaines choses, et ayant mal vécu, vont regretter profondément et mettre fin à leurs jours. Le Fils regrette profondément, mais ne met pas fin à ses jours. Il croit dans la bonté, il a confiance dans la bonté du Père, ce qui lui laisse envisager de demander pardon. Certaines autres personnes sont tellement désolées d'avoir fait ce qu'elles ont fait, qu'elles vont essayer de réparer avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'engagement, en faisant beaucoup de bien. J'ai fait du mal, je vais faire du bien. Donc je regrette tellement. Alors je vais donner de mon temps, je vais aller à l'étranger en mission, en ceci, cela. Je vais aider les populations, je vais aider les gens. Mon argent, je vais le donner. Ouais, mais on ne gagne pas le ciel comme ça. Et la paix du cœur, certainement pas comme ça. Donc je veux dire, regretter, ça ne veut pas dire qu'on demande pardon au Seigneur systématiquement, même se repentir. Mais il existe une repentance qu'on ne regrette jamais, dont on ne se repent jamais. Une tristesse qui conduit à une repentance dont on ne se repent ou qu'on ne regrette jamais. Cette tristesse, c'est la tristesse selon Dieu, qui vient dans nos cœurs, qui nous dit « mais t'es pas au bon endroit ». Vous savez, c'est pas Dieu qui dit « t'es mauvais », c'est Dieu qui dit « t'es pas au bon endroit, regarde, t'es dans le champ de cochons, là, tu devrais être dans la maison ». Il y a une tristesse qui vient parce que juste on réalise qu'on n'est pas au bon endroit. Non seulement on déplaît au Père, etc., mais on n'est même pas heureux dans notre vie. Et cette tristesse-là conduit à une repentance qui, elle, va nous conduire au pardon et au salut. C'est ça dont on a besoin. Et le Fils va rentrer en lui-même, et il va rentrer à la maison. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il arrive à la maison, le père est bon. Il est incroyable, ce père. Il accueille le fils sans tergiverser. Il court, il le prend dans ses bras, il l'accueille. Et souvent, je me suis mis à la place du fils. Je me suis dit, mais si je me mets à la place du fils, je viens pour demander pardon, tout ça, je suis vraiment pas bien. Puis mon père m'accueille, bras grands ouverts, il me serre dans les bras, je sens pas bon, j'ai dilapidé ses biens, etc. J'ai manqué d'honneur à son égard, de respect. Ben, finalement, il m'a déjà pardonné. Pourquoi il lui demande pardon après? Pourquoi il confesse son péché alors que son père l'a déjà accueilli? Parce qu'il a fait la différence, lui, entre la bonté du père, parce que oui, il a confiance en sa bonté, conscience de sa bonté, mais il est conscient aussi de sa justice et de l'iniquité qu'il a commises. Donc quand il vient, la bonté du père ne suffit pas à le rassurer en disant « t'as pas besoin de faire de démarche ». Il fait une vraie démarche de repentance qui va jusqu'à demander pardon. Et quand le père lui dit « bienvenue », il dit « attends, j'ai quelque chose à te dire ». Puis il dit à son père « mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Mais le père dans la suite prend la position et puis lui redonne la position de fils. Ça, c'est toute la bonté du père. Bon, on connaît bien cette histoire. Quand j'étais plus jeune, et encore peut-être maintenant, quand j'entends un prédicateur qui ouvre sa Bible dans Luc 15 et qui commence à prêcher, je me dis de quel côté je vais me faire un petit peu trancher là. Parce que quand on prêchait sur le fils prodigue, je me sentais repris. Je me disais, mais oui, combien de fois je dilapide, c'est bien. Alors quand j'étais ado et que j'entendais la prédication du fils prodigue, avec tous les combats d'ado, les pensées attirées vers les jeunes filles, vers la cigarette, vers ceci, cela... j'entendais, je me disais, ah, pourvu qu'il n'y ait pas une parole de connaissance, un truc comme ça qui me tombe dessus. Et puis je dis, Seigneur, je te demande pardon et tout. Alors la fois d'après, quand j'entendais le prédicateur prêcher sur l'autre fils, le fils aîné, je me disais, ouf, c'est bon. Et puis il commençait à dire, le fils aîné, il était légaliste, il avait... Puis je me dis encore, et rebelote. Et je me dis, parce que je me retrouvais dans les deux fils. Je me dis, on a un côté en nous qui a envie de vivre la vie, qui a envie d'aller loin dans le monde, ou en tout cas de profiter en même temps qu'on veut plaire à Dieu. Et puis d'un autre côté, peut-être, si on a grandi dans les églises, en tout cas c'était mon cas, on a appris à mettre des barrières bien comme il faut, et ça c'est bien, ça c'est mal, et puis ceux-là ils sont pas bien. Bah, finalement, avec les jeunes de Kevin, j'ai appris qu'il y avait d'autres qui étaient bien, ça m'a ouvert un peu et tout. Mais n'empêche qu'au départ, j'étais quand même bien carré, pas dans le bon sens, dans le sens où j'avais une petite boîte et j'avais l'impression qu'en dehors de cette boîte. Alors quand on prêchait sur le fils qui disait, ouais, quand même, lui, il a dilapidé ton bien et tout, je me dis, ben ouais, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Quand je vois Dieu faire grâce à des gens qui n'ont pas une vie correcte, ben moi, je me sens repris. Juste pour une anecdote, je suis un bon chrétien, et depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout jeune plutôt, je priais pour ma future femme. Alors je priais, je disais, Seigneur, bénis-la, bénis notre futur couple et tout. J'ai prié longtemps, puisqu'on s'est mariés à 28 ans. Et enfin, longtemps, il y a pire, hein, mais déjà... Mais j'avais commencé tôt, c'est pour ça que je trouvais que c'était long. Non, mais c'est vrai, déjà à 14 ans, à la colo, j'étais pas encore au camp d'ado, à la colo. Seigneur, guide-moi, dirige-moi, est-ce que c'est elle? Bon, ben, j'étais jeune, mais au moins, en tout cas, je priais dans ce sens-là. Et puis, on nous avait dit, préservez-vous, gardez-vous pur pour votre future épouse, tout ça. Donc, ben, je faisais attention à ça. J'avais les mêmes combats que tout le monde, mais dans mon corps, je m'étais gardé pur. Je vais à l'ITB, l'école biblique, à Bordeaux, près de Léognan, près de Bordeaux. Et puis un jour, je me rappelle, j'étais à table avec plusieurs étudiants, dont deux étudiantes. Puis on était installés, on discutait pendant le repas du midi. Et puis le sujet vient du mariage. Alors on discute et tout. Puis je dis, oh, moi, je veux marier avec quelqu'un qui s'est préservé aussi. C'est pas que j'ai quelque chose contre les autres, mais c'est juste que comme je me suis préservé, je voudrais aussi que Dieu, ben voilà, que ce soit réciproque, quoi. Mais c'était, dans ma pensée, c'était sans méchanceté, sans rien. Mais je savais pas que la personne en face, une des filles avait eu une vie dans la société, dans le monde, avant de rencontrer le Seigneur, et que je l'avais blessé par mes propos. Parce que du coup, ce qu'elle avait entendu, elle, c'est-à-dire il y a des gens qui, parce qu'ils ont, ils se sont préservés, ils auront une certaine catégorie de filles, puis nous, les filles, d'ailleurs les hommes pareil, hein, qui avons eu notre vie, on va se retrouver avec le reste, quoi. C'est ce qu'elle a compris, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'était ma conviction. Et puis, un jour, en 2007-2008, j'avais commencé mon stage pastoral et puis j'étais rentré chez mes parents à l'opérette. J'arrive à l'église, je prêche un jeudi soir et à la fin de cette réunion, je vais voir Gaël. Et puis moi, ça faisait déjà 6 mois qu'on s'était vus les premières fois, mais bon, j'avais pas fait attention bien à Gaël, à son environnement, à sa vie, tout ça. Mais là, je voulais faire connaissance davantage. Donc je traverse la salle, je vais derrière, elle était au fond. Je vais la voir et en fait, je voulais savoir qui était la petite jeune fille blonde qui était assise à côté d'elle. On n'est pas venu, mais il y a une grande, elle est grande maintenant, elle s'appelle Enora. Et puis je lui demande, c'est qui? Puis elle me dit, ben, c'est ma fille. Et elle, elle s'est dit, bah, OK, maintenant qu'il sait que j'ai une fille, c'est terminé, etc. Et au moment où elle m'a dit, c'est Nora, et Nora, c'est ma fille, le Seigneur a fait un miracle dans mon cœur. Il m'a donné de l'amour pour la petite, qui avait 5-6 ans. Puis il m'a donné de l'amour pour la maman. Je la connaissais à peine, mais quelque chose qui s'est passé, je ne lui ai rien dit, bien sûr, mais il y a quelque chose que je n'avais jamais vécu qui s'est passé en moi. Et tout ce qui était pour moi, vous savez, comme des catégories, moi j'avais dit, moi, je me suis toujours préservé, j'ai toujours servi, j'ai toujours... Eh bien, le Seigneur a fait tomber une barrière, il a ouvert d'autres horizons. Et donc, je suis parti, puis bon, je vous passe les détails, mais pendant quelques semaines, mon cœur, tous les jours, brûlait. Là, j'avais du mal à me concentrer sur mes prédications, mes visites et tout ça. Puis un jour, j'ai écrit, on a échangé, puis voilà, on a fini par se rapprocher, puis se marier. Mais le Seigneur a fait tomber une barrière. J'étais aussi le fils légaliste. Et on a tendance, en général, à se dire, en tout cas, c'était ma tendance, à me dire, on est l'un ou on est l'autre. Il y a des gens qui sont allés loin dans le monde, ils ont besoin de revenir. Puis il y a des gens qui sont très carrés, il faut qu'ils s'ouvrent. Eh bien, quand j'ai préparé ce message, il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur. Et je crois que c'est une partie de la vérité. C'est qu'on a du mal, et cette parabole nous parle de ça, on a du mal à vivre comme des gens complètement pardonnés. Je m'explique. On est tous des fils prodigues dans le sens où, d'une manière ou d'une autre, on était loin de Dieu, qu'on soit converti à 10 ans ou à 60 ans ou plus. On est tous des fils prodigues parce qu'on s'est éloigné, puis on est revenu, ou on allait, on était en cours, mais on est revenu. Et la problématique, le point d'orgue du message de ce matin, c'est que je crois que quand le Seigneur nous a ramenés, il voulait faire la fête. Il y a la fête dans notre cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappelle que quand je me suis converti, il y a une paix profonde qui a rempli mon cœur. Ma vie a changé, mon cœur a été rempli d'une paix que je n'ai pas ressentie tout le temps, mais qui a marqué ma vie pour toujours et qui jalonne ma vie. Parce que le Seigneur a fait de ma vie, quelque part dans ma vie, vraiment, il a fait une fête en moi, quelque part. Et en vous, quand vous êtes pardonné, c'est vrai ou c'est pas vrai que c'est comme la fête, c'est incroyable. On était écrasés par nos péchés, par nos fautes, parce qu'on est allé là où il fallait pas, parce qu'on a vécu comme il fallait pas, parce que même peut-être en tant que chrétien, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et là, on est peiné, on revient vers le Seigneur, on dit, je suis désolé, encore une fois, je te demande pardon. Jésus a dit, même 70 fois, 7 fois, il faut pardonner. Donc s'il nous le dit, il le fait. Il dit, encore une fois, je te demande pardon. Puis sincèrement, on se dit, on ne mérite pas la grâce de Dieu, c'est pas possible et tout ça. Puis le Père nous accueille, il dit, on va faire la fête. Rentre à la maison, t'es mon fils, t'es mon bien-aimé, je suis heureux de te retrouver, on fait la fête. Et pendant qu'on fait la fête, il y a une partie de nous, de notre conscience, bien chrétienne, peut-être bien catholique, peut-être bien charnelle, humaine, j'en sais rien, qui vient, qui dit, mais tu ne devrais pas te réjouir. Tu ne mérites pas cette grâce. C'est le frère, on est le même, c'est le même. On est un petit peu pas schizophrène, mais il y a une dichotomie en nous. Là, il y a une partie de nous qui dit Dieu est bon, puis l'autre qui dit tu ne devrais pas te réjouir parce que tu ne mérites pas cette grâce. Mais bien sûr qu'on ne la mérite pas. Et le fils aîné, c'est cette partie de nous, de notre conscience, de ce qu'on aurait dû faire, de la crainte de Dieu, que Dieu est saint, tout ça, qui dit il ne mérite pas d'avoir la fête, d'avoir cette fête. Il ne mérite pas qu'on offre le veau gras, il ne mérite pas qu'on fasse tout ça pour lui parce qu'il a dilapidé ton bien. Mais la grâce de Dieu, c'est ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas d'ignorer le passé, c'est de transformer, de dire, voici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles, sont devenues nouvelles. Ça, c'est la grâce de Dieu. Seulement, il y a une part, je ne sais pas pour vous, mais en moi, il y a une part qui, lorsque Dieu me fait grâce, il y a une part qui me dit doucement, Benjamin, ne te réjouis pas trop vite, saute pas de joie partout, on ne sait jamais que ça recommence, on ne sait jamais que ce soit mal interprété. Et le fils aîné, il est fort en moi. Hein. Il vient me dire, non, c'est pas comme ça, tu ne dois pas te réjouir. Ce qu'attend le fils aîné, c'est que le fils qui fait la fête fasse moins la fête. Mais regardons bien la parabole. Est-ce que Jésus dit du père qu'il a dit, bon, c'est vrai que le volume est un peu élevé, on va lui dire de se réjouir dans son cœur. Allez, je vais lui dire. Non, il a dit au fils, mais entre et réjouis-toi avec nous. C'est ça le bon ordre des choses. La grâce de Dieu, elle ne souffre d'aucune insuffisance, d'aucun handicap. Parce que la grâce de Dieu, elle est complète. Et quand Dieu pardonne. Il sait bien qu'on risque de mal faire. Quand le père a donné l'argent au fils, il ne s'est pas dit, oh, c'est bien, je suis sûr qu'il ne s'est pas dit ça. Il va investir dans une entreprise, il a dû se dire, il connaît ses enfants. Il a dû se dire, le fils aîné, il est correct. D'ailleurs, lui aussi, il a eu sa part. Hein. Il est bien investi et tout. Lui, depuis le début, je sens qu'il a une tendance à la fête, il a envie de découvrir le monde. Il savait ce qu'il faisait. Il l'a fait quand même, parce que Dieu est bon. Il nous donne quand même. Et quand il nous pardonne, parce qu'il est bon, il nous pardonne complètement. Mais il y a une partie de nous qui dit, non, tu ne devrais pas te réjouir de trop. Bien si, vous devriez vous réjouir. Si Dieu vous a pardonné, c'est suffisant pour faire une fête, une grande fête. C'est suffisant pour aller voir. Et si vous étiez, je prends des cas extrêmes, on en a parlé dans ce texte, dans la prostitution, vous avez le droit de dire, j'étais prostituée et Dieu m'a sauvée. Oh non, il ferait mieux de dire un peu, de se taire un peu, on va attendre un ou deux ans, voir si elle tient ou s'il tient vraiment. Mais non, vous avez le droit de vous réjouir. Vous étiez perdu, vous êtes retrouvé. Vous avez commis adultère. C'est des cas extrêmes. Mais je veux dire, c'est là où on est le plus exigeant, le plus dur. Nous, entre nous. Et parfois le monde, avec nous. J'ai été adultère, on a été adultère, vous avez été adultère. Vous revenez vers votre mari, votre épouse. Enfin, vous revenez à l'église et le Seigneur vous pardonne de vos péchés. Vous n'avez pas encore fait vos preuves. Mais le Seigneur vous a pardonné, il y a un feu dans votre cœur. Et il y a une partie de vous qui va dire, oh, joue la cool, tranquille, discret, parce qu'on va voir dans 6 mois si ça tient toujours. Mais réjouis-toi, reçois la grâce de Dieu. Le Père est là, il se réjouit avec toi. Il n'a pas dit qu'on ne tomberait jamais, il a dit qu'il serait toujours avec nous. Il n'a pas dit qu'on serait parfait, mais lui est parfait. Et quand on fait sa volonté, il se réjouit avec nous. Et puis si on a ces pensées-là, eh bien amenons ces pensées captives à l'obéissance de la croix, captives devant le Père qui va apprendre à nos pensées à penser comme lui. Essayons de ne pas inverser les choses. Ce n'est pas au Fils qui fait la fête de rentrer dans les rangs et dire « Bon, pardon, je me suis réjoui, mais je devrais avoir honte. » Il a eu honte. Il s'est mordu les doigts, il s'est rongé les ongles, il sentait mauvais, il est rentré. Et même quand il a été accueilli, il a demandé pardon, il dit qu'il n'était pas digne. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais nous, on voudrait qu'il vienne même sur le devant, qu'il vienne là au micro, qu'il dise « Je vous demande pardon, j'ai vraiment été très mauvais, très méchant. » Enfin, moi, je ne connais pas l'Église, hein, je dis ce que je pense. Mais quelqu'un a subi déjà d'avoir fait des mauvais choix. Il reçoit la grâce de Dieu, puis on lui dit « Maintenant, tu vas sur le devant, tu demandes pardon à tout le monde. » Bon, on pourrait développer, quand on a fait du mal à tout le monde, on demande pardon à tout le monde. Mais quand c'est des choses personnelles, intimes, il n'y a aucune raison d'aller s'afficher devant tout le monde. C'est entre Dieu et nous et les personnes directes qu'on a offensées. Mais ça, c'est nos fonctionnements. Mais si Dieu a reçu cette personne ou nous a reçu et nous a pardonné, ayons confiance en Dieu, soyons des vecteurs d'encouragement. Et s'il y a une partie en nous qui, même pour nous-mêmes, n'ose pas se réjouir, eh bien, menons-la au Seigneur, disant « Seigneur, il y a une partie en moi qui ne veut pas se réjouir. » Je vous assure, il est très bon enseignant. Et il est capable de transformer ce qui est en nous et est incapable de faire sa volonté. Et je crois que l'un des plus gros problèmes de la vie chrétienne, un des problèmes de la vie chrétienne, c'est qu'on peut être pardonné et vivre comme quelqu'un qui est toujours coupable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça arrive. Hein. On sait qu'on est pardonné, mais on ne se permet pas, ou on n'ose pas, ou on n'est pas conscient. En 1863, aux États-Unis, 1er janvier, a été actif un décret signé par le président. Vous connaissez cette période. Moi, j'ai retrouvé les dates. Je savais que c'était vers là, mais j'ai retrouvé les dates pour être bien conforme comme il faut avec l'histoire. C'est en pleine guerre de sécession aux États-Unis. Et le président de l'époque, c'est Lincoln, si je ne me trompe pas, prend une disposition pour que les esclaves qui sont enrôlés dans l'armée soient tous émancipés, libérés. Et l'histoire nous dit que beaucoup d'esclaves ont continué à vivre esclaves jusqu'à la fin de la guerre parce qu'ils ne savaient pas lire. Ils étaient bien libérés, émancipés, mais ils ne savaient pas lire. Et les Blancs, certains Blancs en tout cas, peut-être trop, ne leur disaient pas la chose. Ça ne les arrangeait pas, surtout dans le Sud. Et du coup, ils continuaient à vivre comme des esclaves alors qu'ils étaient libérés. Bon, là, ils étaient inconscients. Mais si nous lisons la parole, nous n'avons plus cette excuse d'être inconscients. Le Seigneur nous a pardonnés et nous devons en être conscients. Mais combien de fois on est libérés mais on marche comme des esclaves? Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit au chapitre 10, verset 7, c'est un verset qui a marqué ma vie et qui ce matin, je pense, est très à propos. Il est dit « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » J'ai vu des esclaves sur des chevaux en position de dignité, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et c'est pas normal. L'Ecclésiaste dit, il y a des choses qui sont pas normales. Dieu a fait de nous des princes et des princesses, dans le sens où nous sommes fils et filles du roi, et beaucoup d'entre nous dans ce monde marchent sur terre, alors que Dieu nous a donné un rang, une autorité. On laisse l'esclave sur la mule, sur le cheval, et nous on marche à côté. C'est pas comme ça. C'est pas faire preuve de bonté que de dire « Oh là là, je suis un enfant de Dieu, mais je vis une petite vie ». C'est pas ça. La vérité, c'est que Dieu nous a destinés à être assis sur un cheval, parce qu'on est fils et filles du roi. Et bien souvent, par manque de connaissance, par culpabilité, parce que l'adversaire met le doigt là, ou parce qu'on a une éducation qu'on a eue, bien on préfère marcher par terre et on rajoute une peine à notre ancienne peine en disant « Seigneur, merci pour ta grâce, mais je vais marcher par terre et je vais laisser l'esclave ou je vais laisser sur le cheval ». Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons pleinement rétablis, c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ, pour qu'on puisse être assis sur un cheval, tel un prince, tel une princesse qui ne mérite pas Ça ne change rien, on ne mérite pas cette monture. Mais ce qui fait que si jamais un jour on n'est pas digne de la monture qu'il nous a donnée, de la position qu'il nous a donnée, la repentance sera d'autant plus sincère. Parce qu'on a conscience qu'on a sali son nom, parce qu'on a conscience qu'on est allé trop loin, alors on va pas dire on n'aurait pas dû mais être assis sur le cheval, mais on va dire on n'aurait pas dû déshonorer son nom, parce qu'on est bien conscient. Mais quand on marche sur la terre, on dit, oh, j'ai pas marché d'une manière digne. De toute façon, on marchait déjà dans la poussière. De toute façon, on se sentait déjà sale. Marchons dans la position, cette position que Dieu nous a rendue en Jésus-Christ. Soyons des fils et des filles de roi. Acceptons que le Seigneur fasse la fête pour nous. Et si une partie de nous n'est pas contente, elle doit se soumettre à la parole de Dieu. Elle doit se soumettre à la grâce de Dieu. Ils ont fait la fête à ce moment-là, mais le lendemain, peut-être, le fils il s'est levé, il a pris sa pioche et puis il est allé travailler. Mais c'était le moment de la fête. On fait la fête. Puis après, on reprend le travail. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, mais certainement de cette femme qui a été retrouvée en situation d'adultère, amenée à Jésus. Et alors qu'elle est là, dans la présence de Jésus, Jésus qui est conscient de sa faute. Hein. Jésus est bon, parce qu'il a la nature du Père, et c'est le même, Jésus est Dieu. Pour cette femme qui vient là, on l'accuse de tous les maux, et il ne se dit pas, bon, je vais défendre le plus faible. Il dit, je vais défendre la vérité. Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Vous connaissez l'histoire, tout le monde s'en va. Jusqu'à ce qu'elle reste seule avec lui. Et en préparant ce message, je me suis dit, mais la pauvre, elle ne devait pas comprendre comment on faisait pour se réjouir d'avoir été graciée. Parce qu'elle n'était pas du tout préparée à être graciée. Elle était préparée à être condamnée. Peut-être quelqu'un aurait essayé de la défendre, mais elle n'était pas préparée à ça. Et nous, on se retrouve peut-être un peu comme cette femme adultère de cœur, parce qu'on a péché, peut-être adultère de fait. Et puis là, le Seigneur nous dit, écoute, moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est une nouvelle vie qui débute dans la grâce, dans la fête intérieure, parce qu'il y a la grâce de Dieu a été manifestée. Dieu qui est bon nous a accueillis et a accordé son pardon nécessaire. Pas parce qu'on regrette, je redis, qu'on va au ciel. C'est parce qu'on a demandé pardon, qu'on a reçu le pardon de Dieu, qu'on peut aller au ciel. Cette femme-là, elle a reçu quelque chose auquel elle n'était pas prête. Et nous, parfois, on a reçu ou on reçoit des grâces auxquelles on n'était pas préparé. Et c'est à nous maintenant de la recevoir et de dire, bien, c'est ma nouvelle vie. Et le Seigneur nous dit, vas-y, va maintenant. Marche comme un enfant gracié. Et même si une partie de toi t'accuse ou voudrait te freiner, et même si des fois autour de nous, des gens voudraient dire, tu ferais mieux de parce qu'avec ta vie passée, je veux dire, on ne va pas abuser de notre vie passée, mais Seigneur, c'est passé. Maintenant, on a une nouvelle vie. Que le Seigneur nous aide vraiment à ne pas laisser le Fils aîné prendre trop de place en nous. Oui, j'ai confiance en sa bonté. Il nous accueillera. Maintenant, à nous d'avoir cette bonne démarche, cette vraie démarche de repentance avec la demande de pardon et tenons ferme dans la grâce de Dieu parce qu'il nous a préparé un festin parce qu'il fait la fête avec ceux qui reviennent, comme dans les autres épîtres, les autres paraboles de Luc chapitre 15. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur, on veut vraiment te bénir parce que ta grâce, elle est incomparable. Parce que ce que tu nous as donné, personne d'autre ne pouvait nous le donner. Et forcément, il y a une part en nous qui reconnaît que nous sommes indignes de tout ce que tu nous donnes. Il y a une part en nous qui reconnaît que nous aurions dû être jugés bien plus sévèrement. Et toi, tu es juste parce que nous t'avons fait du mal, mais toi, tu nous fais du bien. Quelle justice divine, quelle grâce divine. Seigneur, apprends-nous à accepter ta parole lorsqu'elle nous reprend, mais aussi lorsqu'elle nous relève. Apprends-nous à accepter ton pardon lorsqu'il est appliqué à nos vies parce que nous te demandons pardon. Apprends-nous à ne pas négliger, Seigneur, notre relation avec toi au point d'avoir une relation superficielle dans laquelle on ne vient pas s'humilier et se répandre devant toi. C'est tellement bon de voir ce Fils qui revient et qui, allant jusqu'au bout de sa démarche, est restauré dans sa position de Fils. C'est tellement bon de voir que le Père a défendu le Fils. Et toi, tu es celui qui défend l'œuvre que tu fais en nous. Pour que le légalisme, pour que les contraintes, les œuvres ou quoi que ce soit ne viennent pas gâcher la fête et écraser nos vies une seconde fois. Merci pour ta grâce. Apprends-nous à marcher d'une manière digne de cette grâce de Dieu et de l'offrande, du don de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Ce que tu as souffert, nous ne voulons pas le négliger. Nous ne voulons pas le mépriser. Nous voulons marcher d'une manière digne de ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Au nom de Jésus. Amen.